La différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, c'est marqué, il appelait Moshe, il appelait Adon le Kol HaNeviim, il est le seigneur de tous les prophètes, parce qu'il prophétise complètement différemment que les autres prophètes. Les autres prophètes, ils rentraient en état de transe, et Dieu leur parle dans des rêves ou par des exemples. Moshe Rabbeinu est le seul qui peut rester réveillé sans tomber face à terre, et Dieu lui parle comme un homme qui parle à un homme. C'est le seul de tous les prophètes de l'histoire qui était d'un calibre pareil. Le dernier, l'avant-dernier verset de la Torah nous dit « Il ne s'est plus levé dans Israël un prophète aussi grand que Moshe. » La Torah elle-même témoigne qu'il n'y a pas plus grand que Moshe. Chazal disent « Dans Israël, il ne s'est pas levé aussi grand que Moshe. » Mais dans Umot HaOlam, dans les pays, dans les peuples de la terre, s'est levé. Qui c'est? Bilam. Bilam le prophète. C'est-à-dire que nous avons un prophète de calibre égal à Moshe Rabbeinu chez les non-juifs. Pourquoi Dieu fait une chose pareille? Pourquoi? Que ce soit à égalité. Il n'y a aucune raison que les juifs aient un très grand prophète. Et le goïm, non. Demain, les goïms viendront et diront, si nous, on avait eu un prophète aussi grand que Moshe, nous aussi, on aurait fait la Torah, on aurait été des bons juifs, d'accord, des bons goïms. Alors, Dieu leur a envoyé un prophète. Mais ce prophète va utiliser son potentiel à mauvais escient, et il va être, l'histoire comme ça, c'est la parasha de Balak. Il y a un roi qui s'appelle Balak, le roi du pays de Moab, le pays de Moab, c'est un pays frontalier de la terre d'Israël, et le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, pour rentrer en terre d'Israël, doit passer par le pays de Moab. Balak, le roi, envoie ses espions aller voir c'est quoi ce peuple-là. Tout celui qui s'y frotte, non seulement s'y pique, mais disparaît. Quoi. Tous ceux qui se sont battus contre le peuple d'Israël disparaissent, ils ont une arme spéciale. Quelle est leur arme spéciale? Leur arme secrète? Les espions reviennent et disent qu'ils ont un secret terrible. C'est quoi leur bouche? Ils ont un dieu. Ils prient avec leur bouche. Et ce dieu, il règle les problèmes. Tac, tac, tac. Terminé. Tous les peuples qui s'y frottent disparaissent. Balak dit, ok, je vois qu'on ne peut pas utiliser avec ce peuple les armes conventionnelles. On va utiliser aussi les armes. Nous aussi, on va passer en armes non conventionnelles. L'arme orale. Et il se renseigne. Il apprend qu'il y a un prophète, qui s'appelle le prophète Bilham, qui a un pouvoir terrible dans sa bouche. C'est vrai. Bilam et Kabab, c'est marqué Yodea Dat Elion. Il connaît Dat, la conscience supérieure. Il connaît Dieu. Il est capable de voir chaque jour. Dieu est infiniment bon. Ce monde-là, pour être créé tel qu'il est, il y a besoin de limites. Limite, c'est restreindre. C'est restreindre, c'est arrêter. Ça s'appelle ça la rigueur de Dieu. La rigueur de Dieu, en tant qu'elle-même, elle est terrible. C'est-à-dire, nous, toujours, quand nous prions, on demande à Dieu d'amplifier ses attributs de rachamim, de miséricorde, et au contraire, de passer outre ses attributs de rigueur. La rigueur, c'est ce qu'il appelle c'est le din, d'accord? C'est la justice rigoureuse de Dieu face à laquelle aucune personne n'a droit à la vie. T'as pas droit à la vie. C'est un cadeau. D'après la justice, t'as pas droit. Droit, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est pas juste. C'est injuste. C'est injuste dans le bon. On demande à Dieu qu'il soit injuste avec nous dans le bon. Parce que s'il serait juste avec nous, qui pourrait dire « je mérite, j'ai droit ». À quoi t'as droit? Ce Bilham sait à quel moment Dieu envoie les forces de rigueur dans le monde. C'est un moment qui est très très court dans toute la journée, très court. Et s'il maudit à ce moment, il avait un pouvoir de vraiment, sa malédiction se réalisait sur place, et c'était terrible. C'est pas une bombe atomique, c'est une bombe à neutrons, une bombe à la Bilham, c'est terrible. Dieu fera un miracle, c'est une des 10 choses que nous sommes censés nous rappeler par jour. Il y a 10 choses qu'on va se rappeler tous les jours. Qui sont? Rapidement, je vous les rappelle. Alors, moi, j'ai ça en hébreu, alors ça fait Yitzhak Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ensuite, la manne, Amalek, parce qu'Amalek est venu nous attaquer dans le désert, le Shabbat, le Hegel, toutes les choses mauvaises que les Israélites ont fait dans le désert, et spécialement le Chet Hegel. Maman Arsinaï, qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Ma Sheyatsu, Balam, Bilam, Vebalak. Les mandats de Sikot Hashem. Se souvenir de ce que Balak et Bilam ont voulu nous faire pour qu'on sache la grandeur des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Dieu, durant cette période où Bilam est venu pour maudire. Donc Balak le roi va louer les services du prophète Bilam. Bilam, par trois fois, va tenter de maudire le peuple d'Israël. À la place d'une malédiction, qu'est-ce qui sort? Une bénédiction. Comment ça se fait? Dieu a changé carrément les ordres de la création. C'est pas possible qu'il y ait pas de rigueur. C'est pas possible. Mais Dieu, il a fait un miracle au niveau métaphysique. Il a changé la constitution des mondes pour que Bilam ne puisse pas maudire. Effectivement, à la place d'une malédiction, sortira une bénédiction par trois fois. Je reviendrai tout de suite à la fin de l'histoire. Je finis avec les trois choses qui restent encore. Il nous reste Yerushalayim. Se souvenir que c'est Dieu, Yerushalayim, que Yerushalayim est détruite. Il faut se souvenir que nous espérons que, voilà, que le temple est encore détruit, que Yerushalayim soit reconstruit. Se souvenir que c'est Dieu qui nous donne la force, la Sotrail. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est pas moi avec ma puissance qui arrive à faire toutes les victoires d'Israël ou tout le fait que le peuple est éternel. C'est grâce à Dieu. C'est tout ce qui m'arrive dans mon business quotidien, c'est la main de Dieu, c'est pas moi. Dernière chose, Massé Myriam, c'est pas dans l'ordre, enfin je fais un peu pas dans l'ordre tout à fait, mais peu importe. Massé Myriam Anevia, la sœur de Moshe, Myriam, la prophétesse, elle a fait un lachonara sur Moshe, et à cause de ça, elle était punie de lèpre. Alors si Myriam, qui est la sœur de Moshe, elle fait ça pour son bien, et c'est une grande sadéquette, elle part comme ça en cachette à son frère Aaron, elle était punie de lèpre, alors, comment les idiots qui parlent comme ça à tout vent sur tout le monde, eux méritent des choses graves pour la Shonara qu'ils font. Balak le roi, qui a loué, a pris très fort, un chèque avec beaucoup de zéros, les services de Bilam, il est furieux. Il dit, t'as un pouvoir. Donc non seulement maintenant t'as pas maudit, mais t'as béni. Ce peuple béni, donc moi je suis ratatiné, je suis terminé. Bilam lui dit, je vais donner maintenant un truc. Un truc pour vaincre ce peuple. Moi, j'étais bloqué du ciel, Dieu n'a pas voulu terminer. Mais il y a un truc, tu peux vaincre ce peuple. Elohim shel Elu sone zima. Le Dieu de ceux-là, de ce peuple, a la haine de la débauche. Quand Bilam veut maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il les voit, il veut les maudire. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ma tovu aolecha Yaakov, mishkunotecha Israël. Il dit un louange d'Israël. Combien sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans les demeures? Des tentes normales, quoi. Que dans le peuple d'Israël, les tentes, les portes des tentes n'étaient pas l'une face à l'autre. Pourquoi? À cause de l'atzniut, de la pudeur. Quand je suis dans ma tente, j'apporte, je suis dans le noir, personne ne me voit, il y a la tente, l'ouverture qui est ouverte, et en face, il y a la tente du voisin qui n'est pas là, il y a la voisine justement, je peux tout voir. Hein? Par la fenêtre. Moi, j'avais des copains, quand j'étais jeune, et bien, ils avaient un télescope à la maison, puis ils regardaient chez les voisins, à 300-400 mètres. Hein? C'est intéressant. Voyeur. Bilam est un prophète, et il voit Israël. La pudeur. Bilam a tout essayé. Il a tout essayé, les armes les plus non conventionnelles, les pires, il n'a pas réussi. Il va dire, je donne un conseil maintenant. Et pour nous, ça veut dire qu'on doit apprendre. Si lui, il sait comment on fonctionne. Leur Dieu a la haine de la débauche, tout ce qui n'est pas pudique, tout ce qui est relation homme et fille qui n'est pas permis. Effectivement, que va faire Balak? Il va envoyer les filles. L'armée de filles. Et Israël tombe dans le panneau. Tombe dans le panneau. Aujourd'hui, on a près de 4000 ans. Le côté du mal, le Sitra Achra, comme on l'appelle, il a tout essayé. L'Inquisition, les croisades, les Cosaques, les Staline, Hitler, la Shoah. Là, il a sorti le système D. Fini. Ils vont tomber comme des mouches. Les filles. Ça nous concerne. Les filles, c'est pas seulement aller avoir une relation sexuelle avec une fille, que ça, on n'en parle même pas. Le regard, le toucher, la distance, même parler. Ha 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 ha, et toi, ha 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 ha. Vous me direz, c'est parce que je vais pas faire ha ha ha, parce que je finis avec elle au lit. Non, toi pas. Mais sur 10 qui font ha 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 ha, combien finissent au lit? Distance. Si le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, qui ont vu Dieu au mont Sinaï, qui sont à un top niveau de je ne sais pas quoi, ils n'osent pas mettre les ouvertures des tentes l'un en face de l'autre. Nous, dans cette génération de tordus, quand on ne le voit pas Dieu, même si on l'appelle, qu'il est tellement loin, qu'il y a tellement de tout-mal, d'impureté, de débauche autour de nous, et Internet, et les pubs, et les filles dans la rue, monsieur est un Superman, pour qui tu te prends? Et on tombe dans le panneau. Et leur Dieu a la haine de la débauche. 24 000 morts du temps de Balak. Balak a sorti les filles, les Israël ont péché avec elles, 24 000 morts. À combien on en est, nous, ici? De dizaines de milliers de morts dans ce pays? Il y a une distance. Chazal ont donné des lois de distance de la femme. Ce n'est pas du Moussar, c'est le Shulchan Aruch. Me'od, me'od, yitrachek minanashim. Beaucoup, beaucoup, il faut s'éloigner des femmes. Ce n'est pas un livre de Moussar, ce n'est pas un livre de pub, c'est le Shulchan Aruch. C'est quoi beaucoup, beaucoup? Tu changes de trottoir. Évidemment, tu changes de trottoir. Tu vas. La Gemara, comment elle dit? Elle dit, je ne sais pas exactement l'ordre, c'est marqué derrière un lion, mais pas derrière Avodah Zara. Tu marches, t'as une Avodah Zara, t'as, je ne sais pas moi, une idole. Tu bats dans la rue, par hasard, elle est devant toi, on transporte une idole. Change de trottoir. Mieux vaut que t'ailles derrière un lion que derrière une Avodah Zara. La Gemara, elle continue après, elle dit. Je ne sais plus exactement dans l'ordre, comme elle dit. Elle dit, mieux vaut aller derrière un lion que derrière une bonne femme. Je vais dans la rue, il y a une femme en face. Elle marche devant moi. Ben, continuer comme ça, c'est impossible. Parce que quand quelqu'un, normalement, il marche, ben, il regarde en face de lui. Qu'est-ce qu'il voit? Je suis un être humain. Je suis un être humain. Une femme, par définition, ça se dandine. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. Il y a des formes dans une femme. Hein? Alors, tu as les lunettes. Je marche comme ça. Sur le trottoir. Tu doubles. Éloigné beaucoup, beaucoup. C'est pas. Vous êtes fou, vous êtes orthodoxe, je sais pas ce que. Non, Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que regardez des gars. Combien de couples qui cassent parce que monsieur regarde les autres bonnes femmes? Ou Internet, la machine du mal? J'ai vu des gens religieux qui m'ont dit combien ils pêchent avec Internet. Et ça, je te parlais avec des grosses barbes, celui qui n'a pas la barbe. Mais ils plongent dans Internet. Un bouton, tu cliques. Toute ta boîte à la main, tous les plaisirs de ce monde, tu as. Tu fais cliquer. Il faut être un ange pour tenir bon. Éloigne-toi, prends ce truc-là, par la fenêtre. Par la fenêtre. Tu dois pour mon travail. Fais un blocage pareil, que tu donnes le code, je ne sais pas moi. Tu prends le code et tu l'avales. Personne ne saura plus jamais. Il faut changer d'ordinateur. Un juif s'éloigne des femmes. Pourquoi j'en parle maintenant? Nous sommes Rosh Chodesh Adar. Adar vient de rentrer, c'est le printemps, les oiseaux font cuit, il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? La nature se réveille. Les guêpes vont voir les fleurs, les pigeons vont voir les pigeons. Et chez l'homme aussi, il y a un réveil naturel. Après l'hiver, il fait froid comme ça. Hein? Et puis les bonnes femmes qui sortent aussi, tout à coup. Forcément plus léger. Toucher une femme, faire la bise. D'après la Torah, il y a règle, veut balayer avor. Mais vous ne serez tué que transgresser cela. C'est marqué où dans la Torah? Je veux dire,
c'est marqué ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste toucher? Comment est-ce qu'on sait que c'est juste toucher et pas plus?
Alors, je vais expliquer tout comment c'est marqué noir sur blanc. Je ne vais pas lire le verset, ça peut me dire. Donne-moi une Bible là. Il y a une Bible qui se balade. Vaïkra. Changer mes lunettes, je vois rien du tout. Proche, c'est terrible. Voilà. Verset, c'est donc dans Parashat Haremot, dans le livre de Vaïkra, chapitre 18, verset 19. Valisha Belenat Tumata, vers une femme, quand elle est dans sa période, quand elle est dans son statut d'impureté. Ça veut dire une femme qu'une fois dans sa vie a eu une menstruation. Tant qu'elle n'a pas fait le processus de pureté très compliqué, qui finit par le mikvé c'est insuffisant, il y a tout un processus de pureté qu'on apprend dans le mariage qui finit par le mikvé. Cette femme, bien qu'elle n'ait plus de menstruation toute sa vie, une fois l'âge de 12 ans, elle a eu, après même on leur a enlevé tous les parties, il n'y a plus rien du tout, elle n'a plus d'utérus, plus rien du tout, cette femme, elle est nida. Jusqu'à le jour de sa mort, tant qu'elle n'a pas fait son processus de purification. Et toute femme avant le mariage ne fait pas ce genre de processus de purification, donc elle est impure. Une femme, dans sa situation d'impureté, l'otikrav, tu ne te rapprocheras pas, les galot ervata, découvrir sa nudité. Donc la Torah écrite m'interdit se rapprocher. C'est quoi se rapprocher? Un mètre? Non. Se rapprocher au niveau de la distance, c'est interdit après la Torah, mais c'est pas l'interdit qui est marqué là. L'interdit qui est marqué là, mieux vaut se faire tuer que transgresser. C'est quoi? C'est tout contact physique ayant une connotation de rapprochement entre hommes et femmes. Genre la bise. Et plus. Jusqu'à la relation. La relation, c'est encore un interdit supplémentaire qui est beaucoup plus grave qu'est le karet.
Dans les pays où ça n'a pas une connotation, la bise
chez tout le monde, la bise, c'est une connotation de rapprochement. C'est un contact physique amical. Serrer la main, c'est poli. On ne peut pas dire que la bise, c'est poli. C'est amical. Ce n'est pas la bise à tout le monde. C'est amical. Tout ce qui est rapprochement amical entre garçons et femmes physique est interdit de la Torah, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Ça veut dire, j'ai le choix maintenant, ou je fais la bise à ma femme, qui ne s'appelle pas Ingrid ou Fatima ou Christine, qui s'appelle Sarah Rachel Oléa, qui est juive. Elle n'a pas de menstruation. Ce soir, elle va au mikvé, dans une demi-heure, mais elle n'a pas encore été au mikvé. Donc elle a un statut de Nida, vient quelqu'un qui met un pistolet sur la tempe et il me dit « Ou tu lui fais une bise, il est gentil, ou tu lui fais une bise ou je te flingue. » Et bien je lui dis « Tu me flingues. » Il me dit « C'est pas dommage une demi-heure ?» Désolé mon vieux, on est un peuple éternel. Je suis un peuple éternel. Il me dit maintenant « Tu vois ici, il y a un sanglier, un petit cochonnet. Attrape-le. Tu le pends les gorgeants. Tu l'assommes. Après, tu le coupes en petits morceaux. On est Yom Kippour. T'en fais des brochettes. T'allumes le feu. Tu mets sur les braises. Tu fais la bracha des matala et tu le manges. Ou je te flingue. » Je dis, aucun problème. Il est où ?
Pourquoi c'est pas connu alors?
Question tirée, pourquoi c'est pas connu? On l'appelle le Yetserara. Yetserara, il a une arme. L'arme numéro un, Yetserara, c'est la bêtise. La bêtise, l'ignorance. L'ignorance, c'est dans le chapitre 157 du Shulchan Aruch Tom Yoredea. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il faut de plus que cela? Tu sais, on lit cette paracha, on la lit quand? À Yom Kippour l'après-midi. Peut-être que les gens sont en train de dormir, je sais pas, à Yom Kippour. Yom Kippour, on lit ça. Yom Kippour! C'est le passage qu'on lit à la Torah Yom Kippour, l'après-midi. Oui, Gary.
Tout le monde se dit qu'une femme qui est nida, c'est une femme qui est mariée et qui a eu ses règles, c'est pas une
ouais.
Jeune fille.
Il y a une erreur que les gens croient que le jour du mariage, comment c'est le droit de pureté familiale? Parce que c'est parti pureté familiale. Tant qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pureté. C'est des bêtises. Tant qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pureté, il n'y a que de l'impureté. que la femme, le jour où elle a eu l'âge de 3 ans, je ne sais pas, le jour où la première fois elle a une goutte de sang qui, de menstruation qui provient chez elle, cette femme, elle est nida. Mariée, pas mariée, j'ai dit, mais on leur a vu l'utérus, on a tout enlevé, rien. Cette femme, elle est nida des oraita de la Torah. La relation avec elle, c'est un karet. Karet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que cela. Pas pire que cela. Réparable ? Réparable. 84 jeunes. De suite. Par relation. Après avoir fait tchouva. Ou par étude de Torah effrénée. Et tchouva à mort. C'est réparable. Ceux qui disent je vais faire après je réparer, on l'empêche de réparer. Parce qu'il faut regretter. Alors pourquoi tu touches à la bêtise ? Pourquoi tu touches maintenant ? Tu sais comment ça se passe avec une femme. T'es un homme. T'es pas un morceau de bois. Donc tu touches un peu, tu touches tout. Combien de gens je connais qui tombent dans le panneau ? Sont fiancés à la française. Leur fiancé, ils se marient dans 3 ans. Même dans 6 mois. Khmar. Khmar total. T'es un homme, t'aimes une femme. Regarde dans le banc des yeux, c'est complètement fou. Alors je dis, moi je leur dis, ne vous voyez pas. Après ils m'appellent. On s'est vu quand même et on n'a pas tenu. Allez, vas-y. Et je te signe, moi. Alors qu'ils ont fait Chazal pour essayer au moins de limiter la casse. Yehoud. Interdiction d'être en Yehoud. Messieurs, ça existe. Un chapitre entier de Shulchan Aruch, chapitre 22 de Tom Ebenezer. Les lois de Yehoud. On n'a pas le droit d'être dans un endroit avec une femme fermée. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer à chaque seconde. Ni un avec une, ni deux avec deux. Évidemment pas un avec deux et deux avec un. Ni deux avec trois, ni trois avec deux. Non ! Un homme avec 1000 femmes, ou 1000 femmes avec un, ou 1000 hommes avec une femme, c'est interdit. Interdit. N'est permis, pour nous les Sfaradim, que s'il y a 3 hommes et 3 femmes. Et des religieux. Non religieux, on sait très bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ?
S'il y a plus d'hommes.
Non, rien à faire. Qu'il soit 1000, plus on est d'hommes et de femmes, plus on s'amuse. Et alors, s'il y a plus d'hommes ? S'il y a plus d'hommes, ça ne change rien. Non, non, c'est plus grave. C'est plus grave. Par où ? C'est quelqu'un qui au niveau, en tout cas, au moins au niveau sexuel, il a des limites. C'est pas un, c'est quelqu'un qui ne transgresse pas ce genre d'interdit. Il ne touche pas une femme.
Personne qui est méfiant là-dessus ?
Les Ashkenazim, ils permettent... Ils sont plus froids que nous. Les Ashkenazim, ils permettent... 2 hommes et une femme. J'ai eu un cas par exemple, dernièrement, je suis allé faire une conférence au nord du pays, et on était dans la voiture, on était 3 hommes. 3 hommes, et il y avait une conférencière qui devait revenir aussi avec nous. 2 conférencières. Alors, c'était un taxi. Alors, elle appelle au téléphone dans le taxi, qu'elle veut rentrer avec nous. Je dis, oh, pas question, on passe dans le désert. Dans le désert, bon, je ne suis pas chaud, moi. Non, je suis dans... Mais c'est la halakha. La halakha, dans l'endroit qui est tout noir, dans le désert, 3 hommes avec 2 femmes. C'est interdit. Mais elle est ashkenaz. Alors, elle dit, j'ai appelé le rabbin, elle dit, c'est permis. Dites à votre rabbin que c'est après l'ashkenaz pour nous, le saradim, c'est interdit. Elle a vérifié, effectivement, elle a respecté. J'ai eu un cas terrible. J'étais encore jeune, je ne connaissais pas très bien la halakha. C'est combien ? Oui, non. Un cas terrible.
Il y a beaucoup de rabbinim séfarades qui disent ça, justement, que 2 hommes et 1 femme, c'est permis.
Alors tu leur diras que c'est faux. D'accord ? Et je raconte maintenant cette histoire-là qui m'est arrivée. J'avais un très bon ami, il y a 20 ans. J'étais à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lac Bar Omer. On fait la fête, etc. On danse, tout ça. Après, on revient au parking. Parking, c'est dans la forêt, comme ça, tout noir. Je suis avec mon copain. 2 hommes dans la voiture, on va prendre la voiture. Il y a un parking, il y a quelques personnes là-bas qui attendent le bus. Il y a une mémé qui vient vers moi, 70 ans, je crois qu'elle avait 60 ans, elle va voir. Marocaine, comme ça, tu sais, elle sort du fleur, comme ça, elle sort de... Elles ont raté le dernier bus pour Natania. Et nous, on passe par Natania pour rentrer. Elles sont à minuit, dans la forêt, tout noir, elle avec sa maman, 80 ans, qui sort, je ne sais pas, de la hutte dans le schlur, d'accord, je ne sais pas d'où. Alors, les 2 femmes comme ça, dans la nature, à à minuit, en pleine forêt, noir. C'est tout va tout droit en enfer quand il y a un truc pareil. D'un côté, je me suis dit, il roule. Alors j'avais un doute. Je sais plus, les chiffres, c'était 2 et 2, 3 et 3. 2 et 2, c'est permis. 3 et 3. Donc ce serait s'il faut 3 et 3, pour moi, c'est interdit de les prendre. Bon, monsieur Rappé, j'ai vu quelque part, pour nous, ça où c'est 3 et 3. Je dis, désolé, je ne peux pas. Mais toute la route, j'étais comme ça, comme un malade. Bon, bah, au Hachem, c'est pas, j'exagère un peu. Et là-bas, il y avait d'autres juifs, il aurait pris à 10 minutes là-bas, c'est la ville de Tzfat, ils auraient passé la nuit à l'hôtel à Tzfat, et ça rentrait le lendemain. Ou deux bons Ashkenazim, ils auraient trouvé, ils auraient pris à deux.
C'est pas du Kiddush Hachem si c'est la Lacha?
C'est la Lacha, non. C'est Kiddush Hachem. Kiddush Hachem. C'est le Rabbi Ben Sionna Bachaoul, Zechon Levacha, Zechet Sadik, Kadosh Levacha, un des grands de la génération, le Rabbi Ben Sionna Bachaoul. Il m'a dit, t'as bien fait. Bah, au Hachem, voilà. Et tu me diras, elle a 60 ans et 80 ans. Et je suis marié avec des enfants, et aujourd'hui, grand-père va au Hachem. Qu'est-ce que j'en ai à faire, ce truc-là? Chazal, ils ont dit. C'est pas une mesure de sûreté qui concerne les autres, mais moi, je suis certain que ça ira. Alaha! Comme manger du porc, c'est interdit. Comme ça, c'est manger du... Comme ça aussi. Pire que cela. Manger du porc, une fois, le Rabbi Ben Sionna Bachaoul était une fois en voiture, avec un des rabbins qu'on avait ici un temps, le Rav Yohanan Zerbi. Ils ont parlé. Il y a une chose qui s'appelle en Torah, ça s'appelle Hatsi Shiur. C'est quoi Hatsi Shiur? Une demi-mesure. Si quelqu'un maintenant, il mange, par exemple, il doit manger à Kippour, on le fait manger une demi-mesure. Une mesure à Kippour, c'est qu'à côté, c'est environ 22 grammes, quelque chose comme ça. Si tu les manges d'un coup, alors, à Yom Kippour, Kachayav Karet. C'est passif du Karet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ceux qui doivent manger à Kippour, un malade ou un homme qui est vieux? On le fait manger toutes les 10 minutes, moins que cette quantité. C'est interdit de la Torah, mais c'est pas un Riou, c'est pas Karet. Tu manges du porc, pardon, du temps, parce que moi je mange du porc, alors il recevait les 39 coups. Mais il faut manger une quantité, c'est quoi? Alors c'est kazaït. Kazaït, c'est 28 grammes, 28 millilitres de porc mangé en 4 minutes. Le soir de Pessah maintenant, dans un mois c'est Pessah, il faut manger la matzah, peut manger un petit peu. Il faut manger une quantité de kazaït, au moins 28 millilitres, en 4 minutes, sinon c'est pas appelé manger. Maintenant, quelqu'un qui mange du porc moins que cette quantité, un Pessah hatsi shiur. Les 39 coups, il ne reçoit pas. C'est interdit de la Torah. Mais, 39 coups, il ne reçoit pas. Ils ont parlé, est-ce qu'il y a un chassi shiur au niveau de Yichud? Le temps d'interdiction d'être avec une femme, c'est le temps qu'il faut pour cuire un œuf. Alors on dit que c'est 1 minute et demie. Là, qu'ils disent même beaucoup moins, que c'est 35 secondes. D'accord? Tant que tu peux être avec une femme, si c'est une situation de Yichud. Et ce, immédiatement, il a dit, pour moi, immédiatement, il n'y a pas chassi shiur. Une seconde, c'est déjà... T'es en déjà en chiour. C'est pire que le porc.
Chidour.
En chidour, on ne fait jamais en ichoud. Chassé shalom. Il n'y a aucune raison au monde, qui peut permettre de transgresser un issour de ichoud. Il y avait un rabbin, il s'appelait le Levouche. Le Levouche. Ceux qui appellent la Lacha, ils voient, il n'y a presque pas de page dans le Mishnah Brura ou dans la Lacha Shulchan Aruch, on ne cite pas le Levouche. C'est un grand rabbin qui vivait il y a 400 ans. Il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch qui s'appelle le Levouche. Le Levouche, c'est l'habit. Pourquoi il l'a appelé? Lui, il s'appelait Rabbi Mordechai Yafé. Yafé, c'est beau, il était très beau aussi comme homme. Un jour, lui, il n'était pas. C'était un homme, un étudiant en Torah, normal, mais pour gagner sa vie, il vendait des trucs comme ça. Il allait de maison en maison, vendre sa cam. Et un jour, il frappe à la porte, tout ça, une non-juive, il vient rentrer, elle voit un bel homme comme ça, elle ferme la porte à clé, il lui dit, ou tu fais navire avec moi, ou je dis à tout le monde que tu m'as violé. Alors, ok, c'est bon, simplement, laisse-moi aller, j'ai besoin d'aller un petit besoin pressant, j'arrive tout de suite. Bon, il va aux toilettes. À l'époque, les tuyauteries des toilettes, c'est pas comme nous, des tuyaux comme ça, c'est de canaux. Il est rentré dans le canal, il a dit à Dieu, si je m'en sors, pour chaque habit que j'ai maintenant, j'écrirai un livre entier. Et il est passé dans le canal des ordures, donc des toilettes, toute la canalisation, et est sorti comme ça dans la route 200 mètres plus tard. Plus loin, tous les habits complètement puants, mais pour les 18 habits qu'il avait, d'accord, les 18, les chaussettes, tout ça, 18 habits, il a écrit 18 livres des Levouchim, que jusqu'à aujourd'hui, on vit par ces livres-là. Comme un juif, le Rav Mordechai Yafé. Comment un juif se comporte? C'est ça, un Israël. Yosef HaTzadik, c'est quoi sa grandeur? Il fuit. Quelqu'un qui doit aller à Paris, Misken, maintenant, pour les vacances, eh ben, il s'enferme. Il fait attention. T'as des mines partout. T'as un champ de mines. Quelqu'un peut aller les yeux fermés dans un champ de mines, qu'est-ce qui lui arrive? Boum! Alors pour nous, les yeux fermés, en France, c'est aux yeux, les yeux ouverts. Tu fermes tes yeux, oh, il n'y a plus de champ de mines, plus rien du tout. Et distance. Y a une, même pas le toucher, le touchage, j'en parle même pas. Une distance. Une dame vient, se rapproche de toi, te parle. Elle sent, si tu as une certaine distance, elle respecte, elle ne peut pas te sauter dessus. Même si elle est capable, ok. Tu sauras comment. Mais quand ce Yessara, il rentre lentement. Il rentre lentement. Il fait avoir un sourire, c'est sympathique. Puis un regard et les yeux, tac, tac. Ah, déjà, t'es attrapé.
Ce
Yessara
pour des femmes de 60 ans, 80 ans.
Ça fait rien. C'est marqué, comprends, Chazal, ce ne sont pas des enfants. Ils te disent, il n'y a pas de garantie au niveau d'Arayot. Ça veut dire, pour tout, il peut y avoir des garanties. La Gemara, elle raconte une histoire. Rabbi Shimon Hassid, le Hassid, le pieux, qui est connu dans toute la région, être un super Hassid. C'est un grand homme. Tu prends, si la Gemara l'appelle Rabbi Shimon Hassid, Baba, c'est à cause de lui, c'est un gosse. Si la Gemara l'appelle Rabbi Shimon Hassid, il y a un groupe de jeunes filles qui ont été attrapées par des goïms. On a reçu à les libérer. On le prend, on ne sait pas où les mettre. On l'amène au village. On a peur, on va laisser dans une maison, peut-être un jeune viendra aller faire la causette. Tiens, tu veux une clope, comment tu t'appelles, machin. Ok. Alors on l'a mis chez Rabbi Shimon Hassida. Chez lui à la maison. Il avait un grenier. On a mis toutes les femmes dans le grenier, on a enlevé l'échelle et tout le monde va dormir. Au milieu de la nuit, Rabbi Shimon Hassida, il prend l'échelle, il commence à monter. Et il monte, mais il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement fou, mais malgré lui, tu sais, Yetzerara, il est terrible, ce Yetzerara, il te pousse, c'est de la folie pure, c'est très dangereux, c'est ne croit personne, ne doit croire, moi ça ne m'arrivera pas. Parce que c'est au-delà des limites normales. Quelqu'un qui croit, moi je suis là, je sais où sont mes zones de sûreté et d'insûreté, tu te trompes. Ce Yetzerara, il est hors commun, il est hors de toute catégorie normale. Il s'est dit, mais je suis en train de faire une bêtise. Qu'est-ce que je fais? Mais j'arrive pas à m'arrêter. Il s'est mis à brûler au feu. Qu'il descende, qu'il aille dormir. Il a crié au feu. Tout le village arrive. On voit Baba Salé sur l'échelle, en train de monter, aller voir les filles. T'imagines un peu la honte, l'archouma. Ses habits ont dit, tu nous as fait honte, Rabbeinu. Il leur a répondu, je préfère vous faire honte dans ce monde que dans la Maba. J'ai crié au feu, comme ça maintenant tout ce qui se passe, au moins tout le monde comprend. J'ai pas fait la vera, j'allais faire la vera. J'arrive pas à me retenir. La même page de Gemara, c'est dans le dernier péril de Kiddushin. Rabbi Akiva, à qui on a plus grand que Rabbi Akiva? Qui se moquait des pêcheurs, qui dit regardez-moi ces gens qui perdent leur olama abba pour 3 secondes de plaisir, avec un morceau de chair, avec un... Des chamars, des chevaux, des juments. I-an. Ah, il se moquait d'eux. Et Sarah, il a dit, ah, comme ça tu te moques, on va te voir toi. Et Sarah s'est déguisé en Miss Univers de toute l'histoire du monde. En haut d'un palmier. Et il fait, wouhou, Rabbi Akiva, wouhou, yéhi, ah, il fait tout le tralala. Rabbi Akiva, tchik. Rabbi Akiva se met, attends, Rabbi Akiva, faut comprendre, hein. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'était pas religieux. À l'âge de 40 ans, il a fait tchouva. Il est venu au Rabbi Akiva à l'âge de 80 ans. Il est mort à l'âge de 120 ans. Donc c'était entre 80 et 120 ans. C'est Rabbi Akiva. C'est quand même. Hein? Mon cher Rabbeinu monte au haut du mont Sinaï. Il dit, je ne comprends pas Dieu. Il voit toutes les générations venir. Il dit, Dieu, tu as quelqu'un comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Rabbi Akiva, il mérite beaucoup plus que moi. Dieu lui dit, t'as raison. Rabbi Akiva est plus grand que mon cher Rabbeinu. Donc on ne parle pas de choses. Que nous comprenons, de Kaïl que nous comprenons. Mais ce Yessara, il existe. Et Rabbi Akiva qui se met à monter sur le palmier. Tchac, tchac, tchac. Élixir de jouvence. Une voix sort du ciel et dit, non, Yessara, t'as pas le droit. Sa Torah le protège. Si c'était le piston que Rabbi Akiva a eu du ciel, ben, il tombait dans le panneau. Alors, raconte Rabbi Meir, même pas la ligne après, se moquer des pêcheurs, i-an, comment tu vas, comme un étalon avec une jument, t'es pas un âne, t'es pas un chien, t'es pas un cheval, t'es un être humain. Il se moquait des pêcheurs. etc. C'est, ah, tu te moques des pêcheurs, on va te voir toi, Rabbi Meir. Et ils se déguisent en Miss Univers de toute l'histoire de nouveau, mais cette fois pas sur un palmier, le côté de la rivière. Rabbi Meir ne sait pas nager. Eh ben, il saute à l'eau. Et il y va, crawl, papillon, nage, tout à la fois, ce qui sait, blouk, blouk, comme ça, d'accord, et il passe. Et la Gemara, tout à coup, de nouveau, raconte que du ciel, nous voit sort et dit, non, et Sarah, t'as pas le droit, c'est or, or, c'est trop ça. Ça t'aura le protège. Si c'était le piston du ciel, Rabbi Meir tombe dans le panneau, alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, ça m'arrivera pas. Moi, ça m'arrivera pas. Mais c'est idiot. C'est du feu. Avec une bonne femme de 90 ans en train d'agoniser, le Yihoud est interdit. Ben, je sais pas. Oui, monsieur. Ne joue pas au malin. Si ne joue pas au malin. Hein?
Une femme qui est en train de se noyer.
Pardon. Une femme qui est en train de se noyer. Alors, je vais dire la lacha comme ça. La lacha, c'est permis. Mais que tu comprennes, que Rabbi Yosef Karo, il parle, est-ce qu'un médecin peut, en cas de danger, de mort pour sa femme, lui tâter le pouls? Il dit, je ne sais pas quoi répondre. C'est-à-dire, Iyoum. Chapitre, fin de chapitre 157, Tomu Rodea. Pardon, Kouf, Tzadikei. Fin chapitre 195, Yorodea. Le Bet Yosef. Alors, aujourd'hui, on autorise, on dit que les médecins sont occupés à leur job, donc ils ne font pas attention. Les arabes aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas tellement occupés, ils sont occupés sur autre chose, donc c'est bien qu'il y ait une femme aussi qui va avec, ou un homme, le mari, tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, si c'est permis, c'est comme ça sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Et si tu peux louer quelqu'un d'autre, par exemple, pour aller tâter le pouls de ta femme, tu prends quelqu'un d'autre, tu es obligé de payer de l'argent. Il n'y a vraiment pas le choix. C'est où ça, où elle crève maintenant? Ok, on va pas laisser crever. Elle est en train de se noyer. Elle est en train de se noyer. Ok, tu peux, il n'y a pas le choix, tu ne vas pas la laisser crever, mais comprends que c'est très très limite, là, la race c'est permis. Mais, que dans ces cas-là? Bonjour madame, la bise, non, mais vous êtes devenu un oui. Comment on appelle ça? C'est l'argument, j'en ai très souvent parlé déjà sur internet. Nous avons pitié des enfants, c'est ça l'argument qu'il faut leur donner. Écoutez madame, je vais vous faire en deux mots parce qu'il est un peu tard. Dans le monde, on sait bien que 90% des maris trompent leurs femmes. À cause de ça, leur couple, il part en cacahuète. Moi, j'aime ma femme. Vous êtes très bien. Je ne sais pas ce que je vous fais la bise maintenant, que grâce à Dieu, il y aura quelque chose entre nous. Mais, dans une société, on sait très bien, si je ne prends pas mes distances avec tout le monde, il y a un danger. Si même pas moi, tout le monde dire que je suis un obsédé fou complètement. Non. Mais on voit dans la société, il y a des gens qui sont plus légers. Donc, nous prenons sur tout le monde maintenant cette loi-là, qui est institué par Moshe, par la Torah elle-même, c'est interdit, c'est marqué dans le chapitre 18, verset 19 de Lévitique, que c'est interdit de vous toucher. Et je le fais parce que je ne veux pas qu'il y ait des milliards d'enfants malheureux, parce que lorsque le couple il pète, les enfants sont malheureux, tu as des milliards d'enfants malheureux, tristes, à mourir toute leur vie. Pourquoi? Parce que papa a trouvé quelqu'un de mieux que maman, pour une petite fois de rien du tout. Pourquoi tu es dans le panneau, papa? Il lui-même, il regrette, papa. Il y a un moment de sottise, aveuglement, un truc qui est passé. Ce truc-là dont Chazal ont peur, qui existe. Alors quand tu fais ce que Chazal disent, la Torah, elle a dit, tac, tac, t'es protégé magiquement. Tu fais une brèche, t'es plus protégé. Au contraire, vu que t'as fait une brèche, tu donnes de la force au Yetzera, qui devient anormalement fort. Une question?
La bise à une tante âgée.
La bise à une tante âgée, c'est interdit. La bise à sa sœur pas âgée, c'est aussi interdit. Tout ce qui est mère, grand-mère et fille, petite fille, c'est permis. Tout ce qui est mère, grand-mère, tout ce qui est filial. D'accord? Filial, c'est permis. Tout ce qui est sur les côtés, c'est interdit. C'est moins grave, mais c'est interdit aussi. Bauch Adonai, l'homme va amener.